Bonjour et bienvenue sur Jette des Infos. Aujourd'hui, je suis avec Elisa et nous aborderons un thème qui fait polémique.
Tout à fait Chloé, avec le scandale des taxis et des Uber ou encore la répartition du troc, dernièrement, nous sommes face à plusieurs dilemmes autour d'un même thème. Quelle institution choisir pour échanger ?
Exact. Et au travers de plusieurs reportages et d'un débat, nous nous confronterons aux différentes faces du sujet afin d'éclairer notre thème.
Pour commencer, nous recevons M. Traxel et ST qui vont aborder notre thème avec l'exemple des brevets.
Dernièrement, de nombreuses personnes se sont plaintes quant à l'attribution des brevets qui penchent entre la limitation du progrès et ou entre le non-respect de la propriété intellectuelle. Et chacun y va de ses arguments pour faire pencher la balance en sa faveur.
Mais cela ramène à un même questionnement. Bien, messieurs, nous vous écoutons donc.
Alors, tout d'abord, je voudrais dire que la protection intellectuelle, c'est un sujet sensible. En effet, le problème de notre société est que nous échangeons de plus en plus de biens immatériels et, en contrepartie de cela, les moyens de reproduction de ceux-ci sont de plus en plus faciles. C'est pour cela qu'à partir de 1893, les bureaux internationaux ont fondé la protection intellectuelle. En outre, les brevets. Les brevets, donc, consistent à permettre la diffusion de nouvelles techniques protégeant le créateur, c'est-à-dire qu'il a l'exclusivité sur la vente et la production. C'est pour cela, M. Traxel, que je vous pose la question, pour permettre le progrès, faut-il créer un service open source ?
Tout d'abord, au début de ses ventes, l'ancien président de la marque Apple, Steve Jobs, vendait les mérites de vol des travaux numériques et des autres. Dans les années 1970-1980, l'entreprise n'avait pas affaire au système de brevets. Elle créait puis vendait. L'industrie a évolué. Puis des personnes comme Steve Jobs, qui prônaient ses idées, devient de plus en plus réticents à ce sujet. Son entreprise, ayant fait d'innovantes découvertes, cela lui aurait fait de la concurrence. C'est pour cela qu'il commença à menacer d'autres entrepreneurs en procès. L'exemple de la société Apple s'enregistre dans une catégorie de stratégie concernant l'innovation de logiciels numériques. Avec Microsoft, Apple fait partie des sociétés fortement protégées.
Alors cependant, le modèle open source semble de plus en plus prometteur. C'est le cas de Google. Son système de libre production commence à faire de nombreux adeptes. Ce système, nommé Android, se voit devenir de plus en plus important avec l'arrivée de nouveaux utilisateurs. Il semblerait qu'aujourd'hui, Android gagne haut la main en termes d'usagers, même si en termes de rentabilité de logiciels, Apple devance à peine Android. On se rappelle qu'Apple a bénéficié d'un départ fulgurant sur le marché des technologies alors qu'Android est arrivé bien après.
On dissocie souvent brevets et innovation. Parfois, les brevets sont utiles pour les entreprises ne voulant pas de concurrence, ayant les mêmes produits qu'eux. Mais surtout, les brevets ne permettent pas le partage et les connaissances de tout. C'est pour cela que des mastodontes comme Google préfèrent utiliser le système d'open source. Ce que l'on constate est en connaissance de cause. C'est qu'Android, donc le système sans brevet, avance dans davantage de domaines et bien plus rapidement.
Bien, merci de votre intervention. Nous passons tout de suite au second reportage.
Après avoir parlé du cas des difficultés d'encadrement pour la distribution des brevets, nous passons à un reportage qui va quant à lui nous expliquer le problème de l'encadrement de certaines professions, particulièrement avec l'exemple des taxis.
C'est une question légitime, dans la mesure où, selon un économiste, assouplir cette réglementation donnerait 6 milliards d'euros de pouvoir d'achat en plus aux Français, mais cela ouvrirait également la porte à la concurrence et donc à l'actuel bec de noir des taxis, les VTC, qui sont un problème pour les chauffeurs ayant payé leur licence.
En effet, selon les conducteurs de taxis, il s'agit d'une concurrence déloyale, car les Uber ont des prix plus compétitifs. Eux n'ont pas à rembourser la licence. De plus, avec Uber Pop, les chauffeurs ne sont pas des professionnels. Il se peut que le conducteur ne connaisse pas la route pour atteindre la destination voulue ou encore avoir un casier judiciaire bien rempli.
Cela nous ramène donc à la question suivante. Faut-il encadrer certaines professions ? Et afin d'y répondre, nous écouterons le reportage de mesdames Kamps-Edouance.
Bonjour à tous et bonjour Morgane. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une polémique qui a lieu depuis pas mal de temps sur les taxis. On a le droit à une guerre qui oppose les taxis et les VTC. Puis on pourra se demander s'il faut réglementer cette profession. Pour traiter ce sujet, nous accueillerons une experte. Morgane, dites-en nous plus sur cette guerre qui oppose les taxis et les VTC. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un VTC ?
Bonjour Léa et bonjour à tous les auditeurs. Tout d'abord, un VTC est l'acronyme de voiture de transport avec chauffeur. Ensuite, cette guerre a vraiment débuté quand Uber s'est installé dans ce milieu.
Et qu'est-ce qui différencie les Uber des taxis ?
Ce qui les différencie, eh bien plus de choses que ce qu'on croit. Pour être chauffeur de taxi, il faut avoir une licence. Cette dernière permet en réalité d'encadrer ce métier, car sans elle, il est impossible d'être chauffeur et c'est donc illégal. Les VTC, et plus particulièrement Uber, n'ont pas besoin de cette licence pour exercer leur métier, ce qui crée forcément de la concurrence. Et ça n'a pas l'air de choquer les clients et plus curieusement les autorités.
Donc Uber serait illégal ?
En théorie, oui, mais pas vraiment pour la justice française, ce qui les rend plus libres. Pas besoin de payer des fortunes une licence. Ils n'ont pas de problème, sans donc à quoi bon acheter une licence. Parfois, lorsque des clients choisissent de prendre Uber, ils prennent un risque en quelque sorte, car ils ne savent pas sur qui ils vont tomber. Par exemple, un chauffeur qui ne connaît pas la route, tout simplement, ou pire, un prédateur sexuel. C'est exceptionnel, mais c'est déjà arrivé. Bien évidemment, il ne faut pas en faire une généralité et tomber dans la caricature.
Alors que si l'on prend un taxi, on n'a pas ce problème.
On ne l'a pas car les taxis sont beaucoup plus encadrés. Ils ont des règles à respecter. Mais comme je vous l'ai dit, il ne faut pas tomber dans la caricature. J'utilise Uber et personnellement, je n'ai jamais eu de problème. Ce n'est pas parce que les chauffeurs n'ont pas de licence qu'ils font forcément n'importe quoi.
Mais Uber a des règles à respecter ou ils n'en ont vraiment aucune ?
Pour le moment, le cadre légal est très flou. Donc ils ont forcément beaucoup moins de contraintes, ce qui explique le mécontentement des taxis. Après, ils ont sûrement des règles, notamment un certain respect vis-à-vis de la clientèle.
Et donc, si de plus en plus de gens prennent Uber, c'est pour quelle raison ?
Car c'est moins cher. Par exemple, on peut rester des heures dans des bouchons, la course n'augmentera pas, ou vraiment très peu, alors que la course d'un taxi augmentera forcément, et parfois énormément. C'est donc ce qui pousse les clients à favoriser les moins chers, même si les contraintes légales sont presque inexistantes.
Pouvez-vous nous donner quelques chiffres ?
Oui, bien sûr. Alors pour un trajet Gare du Nord-Gare Montparnasse, pendant un trafic faible, à 15 heures par exemple, le prix d'un taxi traditionnel est de 15,80 €, alors que pour un Uber Pop, le prix est de 12,10 €. On retrouve cette différence dans un trafic dense, à 18h30 par exemple, où le prix pour un taxi traditionnel est de 23,20 €, celui d'un Uber Pop est de 13,30 €, soit 10 € de moins.
Effectivement, c'est moins cher. Et que pensent les taxis de tout ça ?
Ça les fait enrager, c'est sûr. Maintenant, de moins en moins de personnes utilisent leurs services. Tout le monde prend des Uber, ce qui a des conséquences désastreuses sur leur rémunération. Ils ne s'en sortent plus. On suppose que de plus en plus de taxis travaillent au black, faute de travail. C'est pour cela qu'ils demandent aujourd'hui uniquement des règlements en espèces. Par conséquent, ils tricheraient sur leurs revenus.
À savoir, quel est le revenu moyen déclaré d'un taxi ? Il gagne 1 500 € par mois, c'est bien ça ?
Tout à fait. Mais s'ils travaillent au black, leur revenu augmente. Il peut être 4 fois supérieur, mais ils ne seront pas déclarés. Pour en revenir à l'histoire de la concurrence, les taxis accusent les VTC en affirmant qu'il fallait seulement payer 100 € pour faire ce métier, alors que, rappelons-le, les taxis devaient payer leur licence et le prix était nettement supérieur aux 100 €. Ainsi, la valeur des licences de taxi obéit mécaniquement à la loi de l'offre et de la demande. Dans la capitale, par exemple, elle est de plus de 200 000 € en moyenne. À Nice, ville la plus onéreuse, le prix est d'environ 300 000 €. Avec l'arrivée des VTC sur le marché, les taxis déplorent une baisse du prix des licences, perdant ainsi de la valeur à leur revente, et alors même que ces chauffeurs se sont lourdement endettés pour les acquérir.
Et que pensent les autres pays des VTC ? Sont-ils du même avis ?
Eh bien, par exemple, à Londres, devenir chauffeur de taxi met beaucoup plus de temps qu'en France. Il faut s'inscrire sur une liste et attendre pendant 4 ans, seulement pour avoir une réponse, qu'elle soit positive ou non. Donc chez nos amis anglophones, les chauffeurs le prennent mal, et ce ne sont pas les seuls à prendre mal leurs arrivées.
Pensez-vous qu'il faut leur imposer plus de limites ?
Je pense qu'il serait plus judicieux d'imposer des limites, car même en sachant qu'on peut tomber sur n'importe qui, les gens se pressent tous pour aller chez Uber. Comme je vous l'ai dit, il y a eu déjà des problèmes avec Uber qui montrent qu'ils ne sont pas encadrés. Par exemple, à San Francisco, un chauffeur de VTC aurait frappé d'un coup de marteau un de ses clients, car les deux n'étaient pas d'accord sur l'itinéraire que voulait prendre le client. C'est un gars vraiment extrême, qui est très rare, mais qui fait peur aux gens.
Mais c'est scandaleux. Et personne n'a rien fait suite à ça ? Pourquoi les autorités n'ont pas décidé à ce moment-là d'encadrer la boîte et ses chauffeurs ? Pour plus que cela se reproduise. C'est une honte et les gens vont quand même prendre des risques.
Eh bien, le chauffeur d'Uber a plaidé non coupable suite à cette accusation de la part de la victime et il aurait été relâché moyennant une caution de 125 000 $. Le chauffeur aurait quand même été suspendu, mais aucune mesure n'a été prise pour plus que ça ne se reproduise. De plus, Uber aurait dit que la sécurité est la première priorité pour eux. C'est certainement vrai, mais après, c'est pas de leur faute si un chauffeur a pété les plombs.
Oui, il ne faudrait pas accuser la compagnie en elle-même, mais avec un drame comme celui-ci, pourquoi les gens continuent à passer commande chez eux ?
Premièrement, parce que grâce au VTC, le prix de la course a beaucoup baissé, et aussi parce qu'ils ne vont pas arrêter d'utiliser les services d'Uber parce qu'il y a eu un drame.
Y a-t-il des pays où les VTC sont interdits ?
Oui, il y en a, pour répondre à votre question. Par exemple, en Allemagne, les VTC sont interdits car d'après le Sénat de Berlin, la protection des passagers passe avant tout.
Pensez-vous qu'Uber va instaurer plus de règles? Et si oui, quelles seraient-elles?
Il faudrait qu'il y ait juste plus de contrôle sur les assurances de transport, sur le profil des chauffeurs, leur ancienneté, leur casier judiciaire et plein d'autres choses pour faire en sorte qu'ils soient encadrés un minimum. Alors ce n'est pas de mon ressort, c'est à la compagnie elle-même de s'interroger et de trouver des solutions adaptées.
Merci beaucoup, au revoir.
Toujours dans les débats actuels, on retrouve la polémique du téléchargement illégal, de la responsabilité d'Internet sur cette affaire de la loi Hadopi. Rappelons que cette dernière était censée pénaliser d'une forte amende le téléchargement illégal et permettre ainsi à l'industrie musicale et cinématographique de se développer. On compte un grand nombre d'avis sur la question de cette loi et du rôle d'Internet dans l'industrie musicale actuelle.
En fait, on associe souvent major et industrie musicale. Les majors sont les trois plus grands groupes qui gèrent l'essentiel du marché musical, à savoir Universal Music Group, Sony Music Entertainment et Warner Music Group. Pourtant, il existe un grand nombre d'artistes indépendants et de petites maisons de disques. Et d'ailleurs, qu'on se rassure, les majors ne se portent pas si mal. D'ailleurs, en Norvège, le téléchargement illégal s'effondre au profit des logiciels comme Spotify ou Deezer.
En revanche, les ventes légales de musique n'ont cessé de chuter depuis 2010 et on constate une baisse de 8 à 9% du chiffre d'affaires de l'industrie musicale en raison de l'effondrement de la vente de CD et en plus une grande majorité des téléchargements musicaux sont illégaux. Par contre, le secteur numérique a quant à lui obtenu une hausse de 6% de ses gains annuels. Mais notre pays se pose en lutte contre ce téléchargement. On l'a vu avec la loi Hadopi et a même avec la Corée du Sud et l'Irlande, mise en place un système de coopération avec les fournisseurs d'accès à Internet. Le téléchargement est désormais puni d'une suppression d'accès à Internet.
Ainsi, une question se pose. Le téléchargement illégal nuit-il à l'industrie du disque? Un reportage de Mathias, Ximista et Laetitia.
Présentez-vous.
Alors bonjour, je suis un représentant de la Quadrature du Net. Et d'abord, avant de commencer ce débat, j'aimerais signaler que les gens nous soutiennent. On n'est pas tout seul et on le voit par nos actions de campagne et de soutien qui, en 2017, nous a rapporté plus de 240 000 euros. Donc on n'est pas tout seul et les gens nous soutiennent et je tiens à les remercier.
D'accord, merci. Alors moi, je suis un représentant d'Hadopi, qui une institution pour la qui lutte pour les droits des internautes sur le net.
Moi, je suis une représentante du
maison de disques.
Oui, d'une maison de disques. Et pour moi, le fait que on puisse télécharger des musiques illégales, c'est un très mauvais point pour les maisons de disques.
Aujourd'hui, et ça depuis qu'Internet existe et que les échanges de données existent sur Internet, l'Europe, l'UE, n'a pas arrêté de légiférer contre les libertés des internautes et des consommateurs sur Internet. Ils ont de plus en plus, ils limitent leurs droits, des choses comme ça, et notamment avec les lois comme la loi Hadopi.
Oui. Mais en fait, c'est tout à fait normal qu'on va limiter, par exemple, la publication sur Internet, tout simplement parce que de plus en plus, le nombre de sites Internet de téléchargement streaming ou par peer-to-peer augmente en France et ça contribue à ne pas rémunérer les artistes. Et donc, sur ces sites, ils ne touchent pas d'argent. Et il n'y a que les propriétaires de ces sites qui en touchent, par exemple sur les sites streaming, grâce aux pubs.
Mais c'est pas la faute des internautes qui échangent sur des sites d'échange de données entre particuliers, entre peer-to-peer, comme vous dites, qu'il y a ces problèmes-là.
En fait, le fait qu'il y ait des internautes qui vont sur ces sites et le nombre de téléchargements, un site, enfin, va donner de l'argent aux propriétaires de ces sites, donc va inciter à en créer de plus en plus ou plus de contenu et donc à les développer sur le net.
Mais je pense que la question est de savoir pourquoi les gens vont télécharger de la musique illégale et non pas acheter des disques. Et il y a une raison toute valable pour ça et toute et sous nos yeux, c'est que les disques, ils sont beaucoup trop chers aujourd'hui. L'industrie musicale fait grimper les prix des du CD.
Oui, mais quand on parle de disques, il y a plein de solutions qui existent. Par exemple, il y a des sites, des plateformes comme Spotify, Deezer, qui proposent du contenu musique libre en téléchargement, tout à fait légal, et à pas plus de 10 euros. Pour moi, c'est une grande solution. Oui.
Laetitia, vous, en tant que représentante d'une maison de disques, qu'est-ce que vous avez à répondre à la polémique quant au téléchargement illégal ?
Ben, c'est un mauvais point pour... c'est un bon point pour les artistes parce qu'ils peuvent se faire connaître par rapport aux plateformes. Et on a eu la preuve, il y a des artistes qui se sont fait bien connaître grâce à ça. Bon, par exemple, ceux qui sont connus, par exemple, comme Jean-Jacques Goldman, par exemple, pour eux, c'est un tort. Mais sinon, des artistes, ça les dérange pas tant que ça. Après, par contre, pour les maisons de disques, oui, parce qu'ils perdent les sous qu'ils pouvaient prendre avec les CD. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais avec Deezer, par exemple, la plateforme, ils peuvent... des lois ont été mises en place et...
J'aimerais bien parler par rapport au prix des disques, on en parlait précédemment. Je trouve quand même que c'est un peu, on va parler abusé, pour le prix des disques. Donc, je vais pour un disque, un CD qu'on achète à 20 euros, on va reverser 1,4 euros à l'auteur et compositeur, entre 2 et 4 euros à l'interprète, et 10,5 euros à la maison des disques. Mais qu'est-ce qui explique autant d'argent donné à la maison des disques ? C'est plus de la moitié du disque. Pourquoi ?
Qu'avez-vous à répondre à cela, Laetitia ?
Je sais pas, c'est lui qui fait le disque, c'est grâce à eux que les artistes peuvent...
Mais pourquoi c'est aussi cher ? Pourquoi on prend la moitié du disque pour la maison des disques ? Enfin, c'est plutôt...
Mais c'est eux qui font la majeure partie du travail. Si l'artiste se fait connaître, si son disque se fait vendre, c'est grâce à lui. Donc il faut bien que...
D'accord.
Aujourd'hui, dans la 14 du net, et ceux qui travaillent avec moi, on essaie constamment de lutter pour les libertés sur Internet, et c'est les lois comme la loi Adopi qui nous en empêchent. Et cette loi, elle repose sur la dénonciation. On va dénoncer des gens qui sont supposés télécharger des contenus illégaux et on va leur faire des punitions, une riposte graduée.
Des ripostes graduées, mais ce n'est pas que sur... On a des preuves que ces personnes sont allées sur ces sites avec leur adresse et ils ont téléchargé. Alors, je vais vous parler de la réponse... vous parlez de réponse graduée. C'est plusieurs... On a trois processus. Si l'individu est soupçonné de télécharger sur un site peer-to-peer, de la musique sur un site ou du contenu illégal sur un site peer-to-peer, on va lui envoyer un email pour lui dire qu'il faut arrêter. Si après, dans les 6 mois, il continue, on va demander à son fournisseur d'Internet de couper sa connexion. Et s'il continue, il est possible qu'il y ait une poursuite judiciaire qui sera délibéré par Adopi, si oui ou non, il y aura poursuite.
Mais ce n'est pas la faute des particuliers qu'il y a ce problème et cette crise du secteur, de l'industrie musicale. Il y a, les espaces d'échange de données...
Il y a différents espaces d'échange, les espaces streaming, où on télécharge streaming, et des espaces peer-to-peer. Le streaming, c'est directement de l'hébergeur à votre ordinateur. Le peer-to-peer, c'est un mélange de contenus que chaque individu a par partie, il les rassemble et ça va faire le contenu. Donc c'est l'individu qui est en tort. C'est sur ça qu'on intervient, sur les sites peer-to-peer.
De toute façon, les sites en streaming, vous les fermez un par un. Et quand il y en a un qui est fermé, le lendemain, il y en a un nouveau qui s'ouvre. Donc cette politique ne marche pas, on le voit bien. Et il y a même des sites qui ont été fermés qui réouvrent quelques temps plus tard, comme la zone de téléchargement qui a été fermée et qui s'est rouvert 2 mois après.
Bien, Mathias ?
Je vais répondre à ça que je pense qu'il faudrait améliorer. Quand on ferme ces sites, c'est sûr qu'il y en a qui rouvrent, mais le fait d'augmenter la peine pourrait diminuer le fait de refaire de ces sites, de diminuer la peine, d'augmenter la peine après la fermeture.
Bien. Eh bien, pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure quant au prix, quant au prix des CD, quant à l'effondrement des ventes. Laetitia ?
Je ne sais pas.
Bien, eh bien, on vous remercie de votre intervention.
Merci à vous.
Merci, au revoir.
Tout de suite, nous allons accueillir Hajar et Noémie, qui vont nous parler de l'encadrement du bio.
Oui, donc il n'y a pas que le téléchargement musical que l'on veut encadrer, d'une loi. On parle aussi de l'industrie du bio, que l'on souhaite voir beaucoup plus réglementée.
Cela ramène donc à une même question. Le bio doit-il être encadré ?
Bonjour Elisa, bonjour Chloé. Donc, comme vous l'avez dit, on se demande pourquoi est-ce que l'on est persuadé que la nourriture bio est meilleure que celle de l'agroalimentaire.
Eh bien oui, la majeure partie des Français sont persuadés que manger un produit bio est de meilleure qualité. Trop souvent, les gens se fient aux labels qui sont imprimés sur le paquet.
Et en plus, on sait qu'un produit bio est 25% plus cher que ceux de l'agriculture conventionnelle. Alors pourquoi les individus achètent-ils des produits si chers ?
Ben, je tiens à préciser que des bananes discount coûtent 8 fois moins cher que celles qui sont biologiques ou avec le label AB. Avec ces écarts de prix, les clients inspirent un aliment de meilleure qualité, traité sans pesticides ni autres produits visant à la surexploitation des sols. C'est la raison pour laquelle il est prêt à payer plus cher, en gage de nourriture saine.
De plus, il n'y a pas de différence significative entre les deux catégories, que ce soit au niveau des apports nutritionnels ou dans le taux de pesticides présents dans les aliments. Alors certes, le fait de manger bio diminue cette exposition aux éventuels pesticides présents dans les aliments, car selon les médecins californiens, elle serait réduite de 30%. Mais le contenu en vitamines, en lipides, en protéines ou encore en sels minéraux reste équivalent que ce soit dans le domaine du bio ou du non-bio.
Forcément, les Français trouvent que le bio est plus sain pour différentes raisons, notamment pour l'environnement, la santé, et ils sont 79% à penser que l'agriculture biologique améliore le goût et favorise l'emploi. Effectivement, les restaurants se sont mis à servir des plats à base d'aliments biologiques et certains vont plus loin encore, ils servent que du végétal.
Oui, non seulement les produits devront être bio dans ces restaurants, mais aussi devront être locaux et de saison. Sans cela, le restaurant se verra confisquer son label. Les cantines scolaires participent au projet d'une nourriture diététiquement plus saine en ayant 40% de leurs aliments locaux et de saison, dont 20% seraient bio. Ce nouveau régime alimentaire est l'amendement de Brigitte Allain qui a été pris à l'unanimité.
Maintenant, c'est à vous de choisir les aliments que vous souhaitez consommer. Merci de votre écoute.
Ben, merci bien, Hajar et Noémie. Tout de suite, nous abordons le thème de l'économie collaborative. Bien que ce soit un phénomène de société très en vogue, peu de gens savent de quoi il s'agit. L'exemple le plus flagrant de cette activité reste les Uber.
En effet, beaucoup de gens, surtout les taxis, se plaignent d'eux. On l'a vu tout à l'heure. Ils sont une menace pour eux, car ils sont plus compétitifs au niveau des prix. Ils pensent qu'il s'agit d'un système déloyal et veulent le voir réglementé.
Pourtant, l'économie collaborative est parfaitement légale, mais toutes les questions qu'elle soulève valent bien qu'on s'interroge. L'économie collaborative menace-t-elle l'échange traditionnel ?
Un reportage de Clara et de Chloé. En France, Uber fait parler de lui dans les médias. Cette multinationale proposant les services de transport de personnes lambda inscrites sur son site fait concurrence au traditionnel taxi. De multiples manifestations et conflits, parfois violents, ont eu lieu à Paris à la suite de négociations sans fin. On constate que l'économie collaborative plaît aux citoyens qui sont en quête de nouveaux services utilisant les réseaux sociaux et les outils numériques. Il y a eu une explosion du nombre de sites collaboratifs comme Le Bon Coin ou Airbnb. Mais Chloé, penses-tu que nous assistons au dernier jour de l'échange traditionnel à cause de la propagation de l'économie collaborative ?
Nous n'assistons pas à la fin du mode d'échange traditionnel car celui-ci est issu d'une logique fondée sur une protection des droits de propriété et de droits d'auteur. Cela est une sécurité pour la vente de biens et de services à un particulier. L'économiste Godefroy Dang Nguyen constata lors d'une interview que ce terme d'économie collaborative restait bien imprécis. Clara, peux-tu nous expliquer ce qu'est une économie collaborative et son fonctionnement ?
L'économie collaborative est fondée sur une transaction de confiance.
On choisit les bénéficiaires, le moment, le lieu et les conditions de transaction. Tout se passe sans que des normes et de sécurité aient été au préalable définies. De plus, elle permet de développer des relations entre particuliers qui cherchent à arrondir leur fin de mois ou offrir un service d'appoint si l'offre n'est plus disponible. Il y a des modèles d'économie collaborative, celui de la production de services au profit d'un seul acteur qui est souvent privé, comme même Airbnb, et celui de la production qui s'opère au bénéfice d'une communauté comme le site Wikipédia.
Mais la production de services pour une communauté ne comporte-t-elle pas de problème ?
Oui, Chloé, il y a un problème qu'on appelle passagers clandestins. Ce sont des utilisateurs de biens produits par la communauté, mais qui ne participent pas eux-mêmes à la production. Cela n'a pas eu d'impact pour Wikipédia, mais certains services communautaires n'ont pas eu la même chance, car ils reposent sur un équilibre entre production et consommation, difficile à trouver dans une société dominée par l'individualisme. Cependant, la technologie pourrait dans l'avenir contribuer à solidifier des communautés de partage.
Ce phénomène commence à inquiéter fortement les acteurs de l'économie traditionnelle. Ils craignent que leur chiffre d'affaires diminue si de plus en plus de Français se dirigent vers ces prestations ou bien proposées à des prix vraiment inférieurs à celui des professionnels. Pour l'instant, l'économie collaborative ne représente qu'une petite partie de l'activité économique. Selon l'ADEME, elle ne représentait qu'une part marginale avec 0,5% du chiffre d'affaires des entreprises du secteur concurrentiel et 0,3% des dépenses de consommation finale des ménages. Les ventes, échanges, dons et locations d'objets dus à l'économie collaborative ne pèsent que 2% du total. Les acteurs traditionnels sont donc encore très présents, surtout dans des secteurs comme ceux des produits alimentaires et dans l'immobilier. Car les échanges sont réglementés, obligations fiscales et sociales et encadrement des professionnels. De plus, les consommateurs sont très attentifs aux garanties par les professionnels.
Souvent, l'économie collaborative fait appel à des intermédiaires qui organisent les échanges. Monsieur Dong Nguyen affirme qu'il est très compliqué de structurer des échanges sur un autre modèle que le système marchand traditionnel. Ainsi, l'économie collaborative s'appuie sur une variable très complexe à qualifier, celle de l'humain. Dans l'économie collaborative, les échangistes sont à la fois producteurs par la mise en service de services, mais ils sont aussi consommateurs car ils bénéficient des mêmes offres que les autres individus, comme pour Blablacar.
Malgré toutes ces difficultés et contraintes, une start-up alimentaire se démarque qualitativement d'année en année dans le principe de l'économie collaborative. La Ruche, qui dit oui, a choisi une démarche de la consommation de proximité. Elle permet aux clients de commander leurs produits sur Internet en étant en relation avec des producteurs locaux. La Ruche est un point relais où l'on vient récupérer sa commande, ce qui évite tout gaspillage.
Cette start-up a tellement de succès qu'elle a créé 250 emplois, a un chiffre d'affaires de 2,3 millions d'euros en 2014 et a permis à des producteurs locaux de réaliser environ 20 millions d'euros de ventes. Tout le monde en tire un bénéfice, développe des liens sociaux et bénéficie de produits locaux de qualité. Son modèle se déploie même à l'étranger et grignote peu à peu les parts du marché et des acteurs traditionnels de la distribution.
Bien, merci Clara Chloé. Maintenant, nous allons changer de système puisque nous allons parler de la réforme apparue surtout quant aux notaires. Cette réforme, en effet, vise à augmenter favorablement leur nombre.
Et pour être sûr que ces métiers soient bien encadrés, il y a donc quatre moyens à valider. Donc cela élimine de la concurrence et il ne restera sur le marché que les plus qualifiés.
Cela ramène à une même question. La concurrence entre les notaires français est-elle toujours active malgré la réforme ? Un reportage de Jade et Marina.
Une profession libérale est une profession exercée sur la base de qualifications professionnelles appropriées à titre personnel. C'est une profession indépendante, mais qui souvent se voit déléguer une mission de service public et donc encadrée et contingentée. Selon l'INSEE, en 2010, l'Hexagone comptait 253 000 professions libérales à temps plein. Ces professions sont réglementées par des décrets ou arrêts ministériels. Elles ont des ordres non réglementés, fixés par l'État et où la profession qui exerce les accès évalue les diplômes et les qualifications. Les avocats et les notaires, par exemple, sont considérés comme des missions de service public. Mais il y a d'autres catégories, les professions commerciales, celles de l'enseignement et celles du médical.
Selon François Fillon, qui est fils de notaire, il a déclaré que n'importe ce qui ne peut pas faire n'importe quoi. Les actes délivrés en France par les notaires sont coûteux en raison du faible niveau de concurrence. Emmanuel Macron a cherché dans la loi qui porte son nom à faire jouer la concurrence. Avant lui, le ministre de l'économie, Arnaud Montebourg, était favorable à une réforme concernant les professions réglementées qui donnerait aux Français 6 milliards d'euros de pouvoir d'achat. Ce ministre avait pour projet d'assouplir la concurrence, pour, selon lui, offrir un important nombre d'emplois. Le secteur des professions juridiques est le mieux payé, sont les greffiers des tribunaux de commerce, suivis des notaires, des huissiers et des avocats. Il n'est désormais plus contesté par personne, sauf évidemment quelques notaires égarés. Qu'avec un revenu mensuel moyen de 19 000 euros, les notaires français sont les professionnels du droit les plus chers d'Europe.
Prenons l'exemple des notaires qui sont de moins en moins nombreux. Les jeunes notaires qui veulent entrer sur le marché du travail doivent acheter un office, mais ouvrir son propre office n'est toujours pas évident, étant donné les prix d'achat prohibitifs qui s'expliquent par la forte rentabilité de ces offices. La loi Macron avait pour objectif d'augmenter le nombre d'offices, ce qui aurait eu pour effet d'abaisser le prix d'achat. Ainsi, les jeunes notaires comptent jouer sur la concurrence pour se faire un nom et attirer de nouveaux clients. Les jeunes veulent innover. De nouveaux offices vont être créés pour faciliter l'entrée de ces jeunes. Mais selon le journal L'Opinion, le problème, ce n'est pas la loi, c'est son exécution. Ce vieil adage est en train de trouver un exemple très concret avec la réforme des notaires, destinée à l'origine à permettre aux jeunes de s'installer et elle se transforme en moyen légal pour les offices existants d'ouvrir les filiales en province. Ainsi, des notaires déjà établis auraient multiplié les candidatures pour créer les filiales.
Par exemple, à Toulouse, un notaire bien implanté a monté 50 sociétés avec des employés de son étude pour candidater. Dès lors, les notaires de petites études de province s'inquiètent car ils voient la procédure comme une manière pour les grosses études d'ouvrir des études d'annexes dans les villes de province. Ce qui, au lieu d'accroître la concurrence, la diminuerait. Un paradoxe. Le problème vient du décret du 9 novembre qui autorise les notaires à détenir plusieurs offices et à profiter eux aussi de ce nouveau dispositif d'installation. Une faille considérable comme s'il est totalement légal aux conséquences très importantes. La loi prévoit en effet que si la demande de création de nouveaux offices dépasse l'offre, les heureux élus sont tirés au sort. D'où l'intérêt pour les notaires déjà installés de multiplier les demandes afin de faire en sorte justement que la demande dépasse l'offre. En effet, si cette stratégie est conforme à la loi, cette tactique est contraire à l'esprit de la loi. Visant à donner leur chance aux jeunes notaires voulant se lancer, s'injurant les jeunes notaires. Quant aux clients des notaires, ils se demandent si les prix ne vont pas augmenter.
Merci beaucoup, Jade Marina. Maintenant, nous abordons une nouvelle facette de l'économie collaborative que nous avons abordée en début d'émission, puisqu'il s'agit de la réapparition du troc dernièrement. En effet, nous allons vous présenter à l'aide de Amy et Camille la redémocratisation de cette pratique.
Donc, pourquoi le troc est-il en train de se renouveler dans notre société ?
Bonjour à tous, bonjour Camille.
Bonjour Amy.
Alors il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes dans une société dans laquelle nous avons de plus en plus de pauvres qui cherchent des désirs de consommer des productions locales.
Donc comme l'a dit Elisa, nous allons nous demander pourquoi le troc est-il en train de se renouveler dans notre société. Donc grâce au troc, finit l'achat et la revente. Mais qu'est-ce que le troc ? Eh bien c'est l'opération économique où chaque participant cède la propriété d'un bien et reçoit un autre bien en échange. C'est du commerce de compensation avec l'échange de services qu'un individu va mettre en place. En effet, nous allons échanger des biens avec des services. Une personne va proposer comme service tondre le jardin d'une personne. En échange, cette personne qui n'a pas accès à la production de légumes va demander en échange de son service. Il demandera l'accès aux légumes dont lui n'a pas accès. Aujourd'hui, les personnes sont de plus en plus nombreuses à vouloir consommer local et non acheter des choses qui proviennent de pays étrangers. Depuis toujours, le troc existe. C'était l'un des premiers modèles d'échange. Il est alors caractérisé par l'absence de monnaie dans le transfert de possession.
Il pourrait, dans les prochaines années, convaincre de nouvelles franges de la société. Par sa logique, il ne concerne pas les mêmes biens que d'autres formes de consommation collaborative et les objets ont une durée d'utilisation très courte par rapport à la durée de vie qu'ils devraient avoir et les services y sont éphémères. Une autre forme de troc existe, comme plateforme collaborative, qui permettent d'échanger l'offre et les services sans sorte de trésorerie. La crise économique a incité les entreprises à la prudence quant au développement de leurs activités. En général, c'est parce qu'elles n'ont plus les moyens de les financer. La baisse tendancielle des budgets publics se poursuit en dépit de l'augmentation des besoins des collectivités publiques. Celles-ci disposent de moins en moins de moyens humains et financiers. Elles doivent acquérir de plus en plus de prestations auprès du secteur marchand afin de pouvoir continuer à exécuter leurs missions.
Bien, merci Amy Camille. Donc, lors de cette émission, nous avons pu analyser l'économie collaborative et nous avons pu voir que de nouveaux secteurs ou d'anciens sont en train de se démocratiser. Ainsi, l'économie collaborative semble nouvelle et simplement mal contrôlée, mais non pas illégale. N'est-ce pas, Elisa ?
Tout à fait, Chloé. Ce reportage clôt notre émission. Eh bien, à bientôt sur le jeu des infos.